Qu'est-ce qui venait dans mon cœur, vraiment, depuis un certain temps, j'ai commencé à ébaucher beaucoup de matériel, mais j'ai quoi que j'aimerais... Matin, j'aimerais pas parler d'éducation, je veux pas aller dans cette direction-là, mais j'aimerais parler de celui qui est digne ce matin d'ouvrir le rouleau scellé des sept sceaux. Donc, je veux parler du livre de l'Apocalypse. Je sais qu'il y en a qui sont des fervents de l'Apocalypse. Et donc, qu'est-ce que je vais vous partager un matin? J'ai peut-être une cinquantaine d'heures de travail dans tout ça. Donc, c'était long, c'était ardu, comprendre, décortiquer, d'écouter, lire. Donc, je vais juste vous exposer qu'est-ce qui doit être dit. Et aussi, il y aura des lignes de pensée que vous serez libre aussi de prendre ou de ne pas prendre, de croire ou de ne pas croire. Parce que le livre, l'Apocalypse, c'est beaucoup de sujets, d'interprétations. Et c'est pas évident de naviguer dans toutes ces vagues-là, mais je vais vous emporter des lignes qui doivent être dites et vous en ferez qu'est-ce que vous en voudrez. Si vous voulez une lapider, faites-le. Si vous êtes content, dites-le. Si vous n'êtes pas content, mais priez. Amen. Fait qu'on va y aller dans cette direction-là matin. Puis, that's all. Moi, je donne ce qui doit être donné. Donc, on va lire Apocalypse, chapitre 5, verset 1 au verset 12. Le titre de ce message, « Celui qui est digne d'ouvrir le rouleau scellé des sept sceaux. » Apocalypse 5, verset 1 et verset 12. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup, puisque personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il y avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vit et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne d'ouvrir le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades et de milliers et de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Seigneur, on veut juste te dire merci ce matin pour les chants, pour l'adoration. Seigneur, ce matin, on veut se placer devant toi, te dire merci pour ton salut, merci pour la grâce que tu nous accordes. Et Seigneur, fais-nous encore comprendre la révélation de ton livre, la révélation que tu veux donner à ton peuple à la fin des temps. Et que ce message, Seigneur, soit un message, Seigneur, qui va nous instruire vers toi. Seigneur, de comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui s'en vient pour bientôt. Et Seigneur, encourage-nous ce matin, Seigneur, d'être des bons étudiants de ta parole et fais-nous du bien en travers ta parole également. Père, dans le nom de Jésus, amen et amen. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça parce qu'il y a beaucoup de matériel. Il y a beaucoup de points que je n'aurai pas le temps d'aborder parce qu'il y a beaucoup de matériel quand vous commencez à décortiquer le verset. Vous savez, dans notre texte, nous nous retrouvons devant le trône de Dieu et ce chapitre, je dirais, nous prépare à connaître les jugements qui s'en viennent sur cette terre. Et il faut savoir que le livre de l'Apocalypse, en réalité, relève trois grandes séries de fléaux qui vont venir sur la terre avant la fin du monde. Premièrement, il y aura l'ouverture des sept sceaux et des quatre cavaliers, selon chapitre 6. Et également, il y aura le son des sept trompettes que vous allez retrouver dans Apocalypse, chapitre 8. Et enfin, les sept coupes de la colère de Dieu que vous allez retrouver dans Apocalypse, chapitre 15. Donc, pour nous, pour comprendre, il faut regarder, pour commencer, le chapitre 4 et 5, parce que le chapitre 1, Jésus-Christ se relève. Après ça, nous voyons les sept églises. Et tout de suite après les sept églises, on retrouve, à partir du chapitre 4, qu'est-ce que je vous enseigne ce matin? Le Dieu de gloire. Alléluia. Donc, ce matin, on va regarder qui a le pouvoir, l'autorité d'ouvrir les sept sceaux pour se situer, pour comprendre ces choses-là. Donc, il faut comprendre le début. Vous serez d'accord avec moi? Il faut commencer à quelque part. Donc, on va regarder à cela. Donc, à partir du chapitre 4, chapitre 2 et le verset 2 et 3, aussitôt, « Je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » On voit que dans le ciel, c'est pas cheap, hein? Il y a de la valeur à quelque part. Donc, Dieu, il est grand, il est puissant. Et Jean, dans sa vision, voit un trône de quelqu'un qui est assis. Le trône, la personne qui est assise a l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine. Et dans cette vision, Jean voit Dieu en réalité entouré, dans tout ce que j'ai lu, de brillants, de diamants, transparents comme du limpide, brûlant, symbole de sainteté de Dieu. Également, le sardoine qui représente le rouge comme le sang rappelle la sainteté de Dieu, l'éternité également qui s'exprime dans ses jugements, Dieu. Et également, le trône, devant le trône, on voit un arc-en-ciel et qu'elle est semblable à un émeraude. Et l'émeraude, nous savons, c'est la couleur vert. Et cela, ça démontre, le vert démontre la splendeur, la gloire de Dieu sous de nombreuses facettes. Donc, l'arc-en-ciel, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, ça symbolise la fidélité de Dieu, la miséricorde de la grâce, de l'alliance. Et devant ce trône, également, se trouvent les chérubins. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans toute l'étude des chérubins parce qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher là. Vous ferez votre étude. Ézéchiel, chapitre 10 et suivant, il y a beaucoup, puis la Bible revient 61 fois sur les chérubins. Donc, vous comprenez que je n'ai pas le temps de faire l'étude sur les chérubins. Mais qui sont-ils en réalité, les chérubins, rapidement? Apocalypse, chapitre 4, verset 6 et verset 8, « Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône, et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'une face d'un homme, le quatrième vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre aigles vivants ont chacun six ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu et le Tout-Puissant qui était et qui était, qui est et qui vient. » Donc, Dieu est présent pour l'éternité. Il est là depuis le début. Nous voyons les quatre chérubins, les quatre êtres vivants, les chérubins, ce sont des anges réellement d'un rang extrêmement élevé. Ces chérubins se tiennent dans la sainteté de Dieu, dans le lieu céleste, devant le trône de Dieu. Et la description confirme également que ces quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour de la tête. Il y en a partout. Et ils symbolisent la conscience, la vigilance, la connaissance, le discernement spirituel. Et si on lit également, si on veut mettre l'image de qui ils sont, le premier être vivant est semblable à un lion qui représente les créatures sauvages. Ça représente la force. Deuxièmement, le second, qui est semblable à un veau, illustre le service. Le second, l'aigle, qui représente la créature, qui illustre la rapidité. Et le second, l'homme, qui représente le sommet de la création. Vous allez tous trouver ça dans la Bible, dans Ézéchiel et toutes ces choses-là. Ces quatre êtres vivants, maintenant, sont prêts à servir et à obéir à Dieu. Dans la parole de Dieu également, donc ce qui caractérise les anges, c'est la force, le service, l'intelligence, la rapidité, et ils ont également les six ailes. Donc, ça doit aller plus vite que deux ailes. Six, ça doit aller assez vite. Hein? Donc, Ésaïe 6, verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, dont deux qui se couvraient la face, deux donc qui se couvraient les pieds et deux qui se servaient à voler. Donc, les quatre premières ailes, si on fait l'étude, ils ont trait à l'adoration. Et les chérubins se trouvent devant le trône de la grâce de Dieu. Ils sont remplis de respect, d'humilité et de crainte. Et ils sont toujours prêts à servir Dieu. Et les deux ailes servent à voler. Également, ces quatre êtres vivants devant le trône de Dieu, ils rendent gloire à Dieu jour et nuit avec des actions grâces en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Et qu'ils ne disent pas seulement une fois, mais régulièrement. Écoutez bien, et les quatre êtres vivants, quand ils adoraient Dieu jour et nuit, Apocalypse chapitre 4 et verset 10, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils se jettent leur couronne devant le trône en disant « Saint, Saint, Saint ». Écoutez bien, le plus important, puis je vais développer les 24 ici dans quelques instants, le plus important pour les 24 vieillards, ce n'était pas leurs œuvres, mais bien de se retrouver dans la présence de Dieu, d'être sauvé, d'être racheté, d'être pardonné pour l'éternité. Et il n'y a rien de plus important quand on se rassemble ou dans vos temps de prière, c'est donner la gloire et la louange. Alléluia! C'est important que le cœur s'exprime devant Dieu. Nous allons régner avec Dieu pour l'éternité. On est tous bien de se pratiquer, mais sinon on va trouver l'éternité longue, là. Donc, on est appelé à régner avec Dieu. Maintenant, j'aimerais regarder avec vous les 24 vieillards. Et laissez-moi vous dire que je pensais que c'était très facile d'enseigner les 24 vieillards. Mais c'est la première fois que nous les voyons. Et si vous lisez Genèse jusqu'à dans le livre de Jude, vous ne les trouvez pas. Maintenant, il y a plusieurs lignes de pensée face aux 24 vieillards. Et l'identité de ces vieillards a fait de nombreux débats. Et je vais vous exposer des lignes de pensée et vous ferez votre idée et vous ferez vos recherches. Et c'est à vous de fouiller votre parole, d'aller voir ce que Dieu dit sur les 24 vieillards. Moi, je vais vous exposer qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai écouté. Donc, je vais vous les exposer et faites-vous une idée avec ça. Est-ce que ça va? Parce que c'est pas facile, laissez-moi vous dire, je pensais de bâtir ça dans 10 minutes et ça m'a pris exactement une trentaine d'heures juste pour cela. Donc, j'ai trouvé ça assez ardu, mais édifiant. Alors, on va comprendre pourquoi. Donc, on voit ici 24 trônes, 24 vieillards assis sur les trônes. Ils sont revêtus premièrement de blanc, et sur leur tête, on voit des couronnes d'or. Bien que certaines personnes voient des êtres angéliques, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est des anges, regardons maintenant à cela de plus près. Je vais vous annoncer six pensées, six lignes de pensée, et après ça, faites votre idée. Premièrement, il me semble préférable d'y voir des représentants humains de l'Église que des anges. Plusieurs preuves laissent conclusion, d'abord que les 24 trônes sur lesquels que les 24 vieillards sont assis indiquent que ces derniers régneront avec Jésus-Christ. L'Église a reçu plusieurs promesses que nous allons régner avec Jésus-Christ. Le mot vieillard qu'on voit également n'est pas utilisé dans l'Écriture pour désigner des anges, mais toujours pour désigner des hommes. Les vieillards s'emploient pour parler en général d'hommes âgés en généralement. Tous s'entendent pour dire, en dehors du livre de l'Apocalypse, que les 24 vieillards ne font pas allusion aux anges, premièrement. Deuxièmement, leur tenue vestimentaire indique aussi qu'il s'agit d'hommes. Bien que les anges apparaissent en blanc, si les anges apparaissent en blanc, pour nous, les vêtements blancs symbolisent également la justice de Christ qui nous a été imputée à notre salut. Également, le blanc est souvent associé, vous savez, aux croyants. Ce qui est particulièrement vrai dans le livre de l'Apocalypse, que Jésus a promis aux croyants de Sardes, écoutez bien, qu'ils seront revêtus de vêtements blancs. Ceux qui prennent des notes, ça mettait Apocalypse chapitre 3 et verset 5. Même Jésus a conseillé à l'église de Laodicée, l'église apostat, d'acheter des vêtements blancs afin qu'ils soient vêtus aux noces. Apocalypse 3, chapitre 18. Parce qu'aux noces de l'agneau, sa fiancée sera revêtue de fin lin éclatant et pur, selon Apocalypse 19, verset 8. Donc, les vêtements blancs symbolisent la justice de Jésus-Christ imputée aux croyants au moment de notre conversion. Troisième point, les couronnes d'or que portent les anciens et les vieillards indiquent également qu'il s'agit d'hommes et non des anges. Les anges n'ont jamais reçu la promesse d'avoir des couronnes. Et la Bible ne mentionne pas non plus aucun emporte. Donc, le terme, ici traduit par les couronnes d'or, fait aussi à la couronne, fait référence à la couronne du vainqueur. Donc, il faut comprendre que les 24 vieillards aient sur le tête des couronnes d'or fourni la preuve supplémentaire selon laquelle ils sont humains. Dans l'Écriture, les anges, je le répète bien, ne sont jamais fait promettre des couronnes. Ils n'ont jamais été couronnés et les couronnes que nous parlons, c'est des couronnes de vainqueurs. Est-ce que ça va jusqu'ici? Portées par ceux qui supportent avec succès les épreuves, la persécution, ceux qui ont été couronnés, ce sont ceux qui ont persévéré, ce sont ceux qui ont remporté la victoire de Christ, ce sont ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin et Jésus a promis de donner la couronne aux vainqueurs. Alléluia! Même l'apôtre Paul nous dit que la couronne de justice lui était réservée. Donc, la couronne est portée pour ceux qui concourent avec succès pour remporter la victoire. Donc, c'est des couronnes de justice, c'est des hommes. Quatrième pensée, certains pensent également que les 24 vieillards représentent Israël, ou le peuple juif, si vous voulez. Cependant, à ce moment de la vision, même s'il y avait des Juifs individuels qui ont été sauvés, que d'autres seront sauvés au cours des années qui viennent dans l'histoire, au moment où que la vision est écrite, donc, la nation juive, en tant que nation, n'est pas encore rachetée. Il ne faut pas perdre de vue, si vous faites l'étude approfondie, que dans la vision que Jean reçoit, que l'Église est au ciel. À partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, l'Église, non, on ne la voit pas nulle part. Donc, cette vision que Jean reçoit, ça s'appare dans la période de la tribulation, dans les 7 années de la grande tribulation ou de la tribulation. Je crois que nous ne sommes pas non plus destinés à la colère de Dieu. 1er Thessaloniciens, je ne sais pas si je te l'avais donné, là. OK, mais je vais le lire juste un peu avant. Le 1er Thessaloniciens 1:10, je ne te l'avais pas donné, là. Que Jésus nous délivre de la colère à venir. 1er Thessaloniciens 1:10. Mais 1er Thessaloniciens 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Cela, c'est une des raisons pour laquelle que nous avons l'espérance du retour de Jésus-Christ qui va nous apporter la consolation. Cette consolation est que Jésus-Christ nous délivrera de la terrible tribulation de la colère qui s'en vient sur le monde. J'aimerais dire également que plusieurs, j'en avais parlé un dimanche soir, et selon leurs convictions, selon vos convictions, que beaucoup de gens sont pré-tribulationnistes, c'est-à-dire que nous ne ferons pas partie de la tribulation, que nous serons enlevés au ciel. Donc, on sera épargnés. Et celles aussi qui sont les mi-tribulationnistes, qu'au bout de 3 ans et demi, après l'Alliance, juste avant d'arriver dans la grande tribulation, nous allons partir, nous allons éviter la grande tribulation, selon Daniel. Et encore, pour nous, nous voyons dans le ciel ici que du monde qui est là. Également, dans cette vision, nous sommes dans l'attente de que Jésus va revenir sur terre. Amen. Alléluia! C'est ça qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 1, que Jean a eu la vision. Mais nous ne sommes pas encore dans le millénium. Ici, c'est l'Église des rachetés. Cinquième pensée, certains divisent les vieillards en deux groupes de 12. D'autres disent que c'est 12 patriarches de l'Ancien Testament avec les 12 apôtres qui seraient les 24 vieillards. Mais quand tu fais l'étude du livre de l'Apocalypse, j'aimerais dire que les deux groupes ne doivent pas être divisés. Les 24 vieillards représentent un seul groupe. Sixième point, extrêmement intéressant, c'est une étude un peu qu'on fait ce matin. J'aimerais vous lancer une autre ligne de pensée, la sixième ligne de pensée. Lisez avec moi 1 Chronique 24, versets 1 à 4. Voici les clercs des fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent devant leur père sans avoir de fils, et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'il avait, le service à faire. Sadoc appartenait aux descendants d'Éléazar, Amishmélec et aux descendants de Tiamar. Donc, on pratique son français. Il trouvait parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils de Tiamar, et on vit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle et les fils d'Ithamar 8 chefs de la maison paternelle. Donc, on voit ici quelque chose d'intéressant, ce que nous voyons les fils d'Aaron faisant office de sacrificateur. Mais on voit également que parmi les fils d'Éléazar, qui avaient plus de chefs que la famille d'Ithamar, les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de la maison paternelle et les fils d'Ithamar avaient 8 chefs de la maison paternelle. Si on additionne, ça fait quoi? 24. Donc, plusieurs pensent de cette façon également que les 24 vieillards est la dimension de l'Église qui règnera avec Jésus-Christ pour l'éternité. Parce qu'en soi, selon certains disent que la sacrificature de la terre est faite à l'image de la sacrificature du ciel. Tout selon ses commentaires, selon ses commentateurs, le long 24, c'est que nous sommes les sacrificateurs éternellement. Mais plus à côté d'Aaron, mais du côté de Jésus-Christ, la Nouvelle Alliance. Nous sommes un peuple sacerdotal. Combien sont d'accord avec ça? Nous sommes un peuple acquis. Dites-moi en grammaire, je suis un peuple acquis. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes au contraire une race élue. Quoi? Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc, nous sommes un peuple sacerdotal qui offre des parfums à Dieu. Alléluia! Un peuple qui aime l'adoration. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, il y avait deux services, les sacrifices du matin et les sacrifices du soir. Et aux deux sacrifices, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il allait à l'autel des parfums, qui offrait les parfums, qui étaient les prières, qui étaient les actions de grâce, qui sentaient bon pour tous les sacrifices qui avaient été donnés. Alléluia! Maintenant, on n'a plus besoin de l'autel d'or. Nous sommes l'autel d'or. Nous sommes le peuple qui donne la louange et l'adoration à Dieu. Dites-moi un gros amen! Et Paul nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice, offre vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes le peuple de Dieu qui dégage le bon parfum. Nous sommes ce peuple sacerdotal de prêtre. C'est qu'il faut comprendre que les 24 vieillards ont tous ceci en commun. Pour entrer dans la gloire de Dieu, dans le règne de Dieu, il faut être racheté, lavé par le sang de l'agneau. Sans le sang de Jésus-Christ, personne ne peut entrer dans la gloire de Dieu. Sans la justification, personne ne peut rentrer dans la gloire de Dieu. Les 24 vieillards qui adorent le Créateur sont au service de Dieu, au service de Jésus, au service du Saint-Esprit. C'est ceux qui règnent, qui siègent sur les 24 trônes, les 24 vieillards, dans tout ce que j'ai lu, dans tout ce que j'ai écouté, dans tout ce que j'ai pu lire, tous sont unanimes. Les 24 vieillards, c'est l'Église enlevée, rachetée et couronnée. Wow! C'est votre destinée! C'est ma destinée! Wow! C'est un gros bout. Écoutez bien, on va aller encore plus loin. Ces 24 vieillards chantent le cantique de la rédemption. Et Apocalypse 4, 5 maintenant. Regardons, cela étant dit, du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône brûlent maintenant sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu et le chiffre sept, c'est le chiffre de la perfection. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit ici est dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude. Chapitre 4, chapitre 5 nous écrit les événements du jugement divin. Maintenant, regardons le verset 5. Chapitre 5, verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans, en dehors, et scellé de sept sceaux. » Ici, celui qui est assis sur le trône, nous voyons que c'est Dieu, le Créateur qu'on a vu au verset chapitre 4, qui est le souverain puissant, et celui qui gouverne a dans sa main droite un livre qui est écrit en dedans et en dehors, qui contient les sept sceaux. Et les sept sceaux sont premièrement la fausse paix, la séduction. La deuxième, c'est la guerre. La troisième, c'est la famine. La quatrième, c'est la mort. La cinquième, c'est le jugement divin. Le sixième sceau, c'est les catastrophes naturelles physiques. Et le septième sceau, c'est les événements cataclysmiques du ciel qui vont tout être bouleversés. Ça, c'est les sept sceaux qui s'en viennent, qui vont s'ouvrir. Donc, à partir de ce moment-là, le livre ne consigne pas un livre qu'on peut imaginer comme qu'on voit aujourd'hui, mais c'est en réalité un rouleau, un parchemin que Dieu voit dans la main droite de Dieu. C'est le texte, écoutez bien, et c'est ça qu'il faut retenir ce matin, c'est le texte officiel, le parchemin des décrets de Dieu, le Tout-Puissant éternel qui se trouve écrit et révélé, soit les sept sceaux. Avec les quatre chevaliers d'Apocalypse 6, il y a les sept trompettes que j'ai dit tantôt, Apocalypse 8, et enfin les sept coupes de la colère de Dieu, Apocalypse 15. Donc, ce rouleau, ce parchemin que Dieu tient dans sa main droite, il va le remettre à Jésus-Christ. On va regarder ça plus loin. Daniel, chapitre 7, verset 13 et 14. On fait la chronologie ce matin. 7 et 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les hommes des nations et toutes les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Pour mieux saisir la profondeur encore du verset, nous savons que face au péché d'Adam et de Ève, que Satan est venu voler l'homme, voler la bénédiction de l'homme, voler qu'est-ce qui nous appartenait. Donc, par le péché, maintenant, Satan a pris ça sur lui. Lisons, Luc chapitre 4, versets 5 et 6. Le diable, l'ayant élevé, on parle de Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données et je la donne à qui il veut. On voit cet ange qui va dire à Jésus, tous les royaumes que tu vois, je peux toutes les donner à qui je le veux. Maintenant, la bonne nouvelle. Par la mort de Jésus-Christ, par la victoire de Jésus-Christ à la croix, Jésus va reprendre tous les royaumes que Satan a volés à l'homme. Jésus a démontré sa royauté, sa force, sa puissance par la crucifixion. Il a enlevé à Satan la domination sur cette terre. Par la crucifixion, il est venu racheter l'homme de son péché. Jésus a exposé en spectacle sur la croix la défaite de l'ennemi, bien que dépouillé que Satan, on sait qu'il était là, mais malgré tout, sur le plan juridique, il a tout perdu. Oh, alléluia! Il a tout perdu! Soyez contents! Alléluia! Jésus-Christ, par la mort et par la résurrection d'entre les morts, le monde a changé de propriétaire. Et le document juridique le prouve par votre nouvelle naissance, Colossiens 1:13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce document que Dieu tient dans ses mains, hallelujah, nous prouve que le monde a changé de propriétaire et de document juridique. Et ce rouleau-là, il est scellé de 7 sceaux. Ce livre, ce rouleau, il existe dans le ciel. C'est un document indestructible. Il est consigné et la victoire est définitive en Jésus-Christ sur Satan. Document scellé de la plus haute autorité. Apocalypse, chapitre 5, apporte également la preuve et de l'attente que Jésus est le vrai maître de l'univers. Maintenant, tout est consigné, tout est scellé, mais le parchemin n'est pas encore ouvert. Soit les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Disons, Apocalypse 5, dans ces 2 cas. Est-ce que vous suivez? Amen. Pas trop technique? Vous avez des clés, là, allez enregistrer à la fin, puis écoutez ça à la maison, là. Il y a beaucoup de choses à aller chercher. Apocalypse 5, 2, 4. « Et je vis un ange puissant, criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Écoutez bien juste un instant. Alléluia. « Qui est perçant dans le ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne peut trouver digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. » On voit un ange puissant qui s'écrit « Qui est digne d'ouvrir le livre et rompre les sceaux? » Et la réponse de personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, qui est revêtu pour ouvrir les sceaux. Maintenant, qui va avoir l'autorité? À la vue de cela, Jean va vivre de la détresse. Il va être apeuré, il va commencer à pleurer. Et en raison des événements, parce que personne ne peut ouvrir ses sceaux. Et la raison, si nul, je le dis bien, ne peut ouvrir les livres, il n'y a pas d'avenir pour Israël et ni pour les nations. Allô? L'humanité entière va demeurer sur l'esclavage de Satan. Parce que personne n'est digne d'ouvrir le livre. Et Jean souhaite voir le monde être débarrassé du péché, de la mort et du mal. Mais la bonne nouvelle, que Jean ne doit pas pleurer, car Dieu est sur le point de passer à l'action. Apocalypse 5, 7. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône, des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite, celui qui était assis sur le trône. Ici, c'est plus un ange qui parle, mais un des vieillards racheté par le sang de l'agneau, et c'est lui qui livre à Jean la merveilleuse consolation. Regardez bien, verset 5, Apocalypse 5, 5. Il dit, ne pleure pas, Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Donc, ce vieillard va dire à Jean, « Jean, pleure plus. » Il ramène à Jean à porter maintenant son regard sur son attention sur une nouvelle personne, le lion de Juda, le rejeton de David. Aucun être humain, aucun ange ne peut racheter l'univers, mais quelqu'un le peut. C'est le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu Satan pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Le Seigneur Jésus-Christ, glorifié, exalté, celui qui a vaincu le péché à la croix et son adversaire. Le sang qui a été répandu, c'est le plus grand des obstacles qui est enlevé. Sans le sang de Jésus. Église, nous avons besoin de comprendre la puissance du sang. Et le sang doit enseigner encore de plus en plus. C'est notre force, c'est notre joie, c'est notre victoire en travers l'agneau Christ qui nous a racheté, qui a été crucifié pour vous donner la vie éternelle. Sans le sang de Jésus, nous ne sommes pas guéris, nous ne sommes pas... C'est le sang qui est la puissance du Nouveau Testament. Nous avons besoin de réaliser la grandeur du roi, de réaliser la grandeur du sang de l'agneau. Oh, mes amis, Jésus-Christ, qui est appelé le lion de la tribu de Juda. Vous savez, il y a beaucoup de choses encore à aller chercher. Il y a deux titres messianiques qui disent ici. La tribu du lion de Juda, premièrement, provient de la bénédiction de Jacob. Dans Genèse chapitre 49, Jacob va donner 12 bénédictions à ses fils pour le futur. Et chacun de ses 12 fils va recevoir la bénédiction. Pour Juda, qu'est-ce qui est important? Donc, Jacob va lui donner cette parole. Il va lui annoncer une domination future et de royauté. Cette bénédiction prévoit que Juda sera un lion dominant. Genèse 49, 9, je te l'ai-tu donné? Oui, Juda... On va juste m'arrêter là. Juda est un jeune lion. Écoutez bien. C'est de la tribu de Juda qu'est issu tous les rois de Juda, de la tribu de David et de la lignée qui va aller jusqu'au Messie. Le titre de la tribu de lion de Juda est comparable à un lion, un souverain fort, féroce, implacable, le Messie, Jésus-Christ, le roi des rois, qui est issu de la tribu de Juda. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, la bénédiction qu'on a part de où? De Jacob. Qui est sorti de Jacob? Les rois. Qui est sorti à travers les rois? David. Qui est sorti de la lignée de David? Marie-Joseph. Qui a eu aussi qui viennent de la tribu. Alléluia. Donc, même Hébreux 7, 14, comme on le sait bien, en effet, notre Seigneur est issu de la tribu de Juda. Également, le deuxième titre, Jésus apparaît comme le rejeton ou comme le descendant de David. Ce titre messianique vient également de Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Même l'apôtre Paul nous dit que la postérité de Jésus-Christ vient vraiment de Juda, celui qui a été rejeté par le peuple, mais qui a été un lion rugissant. Alléluia! Même si on l'a tassé, même si les Juifs ne voulaient rien savoir de leur sauveur, il était ce lion qui rugit. C'était pas un chef militaire, mais c'était un chef spirituel. Alléluia! C'était le roi des rois qui était venu parmi son peuple. Oh, il a crié fort, il a dénoncé fort les choses, il a prouvé, alléluia, qu'il était celui qui rapporterait la victoire sur Satan, qu'il a porté jusqu'au bout le poids de la colère de Dieu. Il se sacrifiait, porté à la croix, mort à la croix, pour porter la colère de Dieu sur nos vies et anéantir notre ennemi. Il fallait que Jésus-Christ dépouille vraiment notre ennemi, alléluia, les nominations qui ne cessent de s'exposer à l'exécution des desseins de Dieu. Jésus a triomphé d'eux à la croix. Il a dépouillé Satan de ses pouvoirs. Il a délivré tous ceux qui étaient sous son emprise. Il a détruit les œuvres du diable. Il a arraché au diable le pouvoir qu'il détenait du monde. Alléluia, frère! Ça doit vous exciter à quelque part! Alléluia! En tout cas, je ne sais pas si ça vous excite, moi. Wow, quand je lis ça, je dis, quel bel avenir que nous avons. À la croix, le lion de Juda a acquis la victoire d'ouvrir les sceaux et d'en briser les sceaux, c'est-à-dire de gouverner l'univers selon le plan de Dieu. Jésus est celui qui est digne de prendre le rouleau parce qu'il est le roi des rois, qu'il est le lion de Juda, qu'il est le Dieu vainqueur. Alléluia! Il est celui qui donne la vie éternelle, celui qui vit dans l'éternité par le sang versé à la croix. La victoire a été remportée, mes amis. Alléluia! Cette victoire est indispensable pour l'accomplissement des décrets qui s'en viennent. Bon. Apocalypse 5, 6. Et je vis du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait sept cornes, sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. J'en vois au milieu ces quatre êtres vivants, les chérubins, les vieillards, l'Église enlevée, glorifiée, couronnée, et au milieu, comme un agneau immolé. Maintenant, au milieu de cette vision que Jean reçoit, cet agneau qui est là comme immolé, il y a sept cornes, sept yeux, ils sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jean voit un agneau. C'est le Seigneur Jésus qui ne pouvait être le lion du jugement, ni le roi de gloire, sans que d'abord être l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cet agneau qui a été comme immolé en apparaît comme un agneau qui porte les marques de la souffrance. Cela signifie que sa dignité, que sa puissance, son autorité et sa victoire provient de sa mort et de sa résurrection et qu'il est vivant. C'est la preuve, on le voit encore au ciel. Jean remarque également, à travers cette vision, une autre caractéristique de l'agneau, les sept cornes. Et dans les Écritures, les cornes est l'image qui est tirée du monde des animaux, c'est-à-dire symbole de force et de puissance. Et le chiffre 7, je reviens, c'est le symbole de la perfection, symbole de la puissance absolue de l'agneau. Et Jean voit également sept yeux qui relèvent une fois de plus, écoutez bien, une connaissance infinie de Jésus-Christ parfaite. Et les sept yeux représentent le Saint-Esprit envoyé sur toute la terre. Ça nous parle du Saint-Esprit qui est complet dans toute sa force. Apocalypse 5, 7, dans un des derniers versets. Il vit, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et le verset 7 nous fait assister au dernier acte crucial qu'on voyait dans le ciel. Ce verset illustre l'acte extraordinaire de l'Église, de l'histoire. Celui qui signalera le jour où l'homme va arrêter de se rebeller contre Dieu. Jean voit l'agneau prendre le livre de la main droite de celui qui tient Dieu dans sa main, le parchemin dans sa main. Et l'ultime but de la rédemption est sur le point d'arriver. Donnez-vous un instant. Parle pas assez vite. Donc, on voit sous le regard émerveillé, maintenant, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, le vainqueur maintenant va prendre le livre, le parchemin, le texte officiel des décrets de Dieu, du souverain, et où se trouvent écrits tous les éléments relevés. Qu'est-ce qu'on a dit? Premièrement, on a dit les sept sceaux, les quatre chevaliers, chapitre 6, les sept trompettes, chapitre 8, Apocalypse, et les sept coupes qu'on voit de la colère, chapitre 15. Ce parchemin, maintenant, que Dieu, le Créateur, tient dans sa main, qui est scellé, va le remettre à Jésus-Christ, à celui qui est digne de le prendre. Maintenant, Jésus-Christ va accepter, maintenant, le sceau, de prendre de la main de son Père le sceau, qui lui donne l'autorité de gouverner, qui a maintenant le pouvoir d'ouvrir et d'exécuter les sept sceaux. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est le chef. Le chef de qui? de son Église. Maintenant, le royaume est remis à Jésus-Christ comme récompense de son œuvre rédemptrice. Philippiens 2, 9, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En prenant le parchemin, c'est le couronnement de Jésus-Christ, le royaume est remis à Jésus-Christ comme récompense à son œuvre. Le lion de Juda a le droit d'ouvrir le livre et de briser les sceaux. Ce lion de Juda va exaucer maintenant les jugements divins qui sont sur le point d'être déversés. Les choses s'en viennent, les choses se mettent en place. L'enlèvement de l'Église n'est pas arrivé, mais nous croyons que ça va arriver. Maintenant, je vais terminer en prenant le rouleau. L'adoration, la louange va se manifester par les quatre chérubins et l'Église rachetée qui vont se prosterner devant l'agneau. Ils avaient il y avait des arpes, qui, ça parle de louange, des coupes d'or remplies de parfums, et ils chantaient un cantique nouveau. Apocalypse 5, 11 et 12, mes derniers versets, « Je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades, et des milliers, des êtres vivants et des vieillards en nombre incalculable. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Le ciel reconnaît la royauté de Dieu. Et au ciel, tous disent la même chose. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Tout cela s'en vient, mes amis. Si vous avez bien compris ce matin, nous avons un seul chef. Nous avons le seul qui dirige l'Église. C'est pas l'homme, c'est lui. Lui, le roi, à lui un jour que nous allons rendre notre vie, les comptes de notre vie. À lui seul revient la gloire et la louange. Lui seul, à travers l'Esprit de Dieu, doit manœuvrer dans nos vies, manœuvrer dans l'Église. Alléluia, que je parle d'Église, dans le monde entier. Alléluia, Dieu est le Dieu qui veut se manifester, qui veut nous démontrer l'importance quand nous annonçons Jésus-Christ, quand nous commençons à témoigner, comme notre sœur a dit un matin, la puissance de l'Évangile. Elle doit se manifester par des signes et des puissances et des miracles parce que nous servons le Dieu qui n'est pas mort, mais on sert le Dieu qui est ressuscité, qui est dans le ciel et que les sceaux s'en viennent et que sa justice va se faire. Alléluia! Donnons une bonne bénédiction au Seigneur un matin. Dieu est digne de recevoir la gloire et la louange et l'honneur. Alléluia! Oh, j'aurais tellement d'autres choses à dire. Si Dieu voulant, un jour je reviens, on regardera le premier chevalier, parce qu'il y a quatre chevaliers, très intéressant, très compliqué aussi, mais il y a des bonnes choses. Mais ce matin, c'est pour ça que je voulais prendre la Sainte-Sainte à la fin. Je veux qu'on réalise, vous le savez, quand nous prenons la Sainte-Sainte, nous réalisons qui est le Seigneur. Il faut réaliser qui est notre roi. Amen. On va se lever un matin, je vais demander peut-être aux musiciens qui peuvent s'approcher. Un chant que j'aime bien, je t'exalter. Je veux t'exalter ou Alléluia ou petit chant que vous connaissez. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais demander au proposé aussi, je ne sais pas qui est au proposé pour la Sainte-Sainte un matin. Non? Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on va chanter le chant, on va distribuer les aliments. Alléluia. On peut se lever ensemble. C'est un moment où notre roi, notre Dieu est digne de recevoir toute cette louange, toute cette adoration.
Alléluia.
Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est bon. La Sainte-Sainte, j'aimerais dire aussi, elle appartient à l'enfant de Dieu. celui qui a donné sa vie à Jésus. La Sainte-Sainte appartient à nous. Qu'on a accepté Jésus, qu'on a été baptisés d'eau, qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur, ça nous appartient. C'est une joie, c'est un privilège que nous avons de prendre le repas du Seigneur. Dis avec moi, c'est tout un privilège. Dites-le, c'est tout un privilège. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi à la croix? Qui me donne l'éternité, sa grâce, son amour, son pardon, sa fidélité. Il est digne ce matin de recevoir louange et gloire. Je vais laisser chanter notre frère. On va revenir après.